On t'a même proposé à la mairie de Vallée-Jonction. On t'a monté un parti, un programme.
Tu m'avais montré un programme extraordinaire. Le principal étant de déménager l'abattoir du côté est. Vous aviez vraiment des bonnes idées, mais ça ne m'intéressait pas du tout. Mais mon prochain invité, lui, est très courageux, lui aussi, parce que il se lance dans la campagne en Beauce. Pas une région qui est reconnue pour être très souverainiste. Il est le candidat pour le Parti québécois en Beauce-Sud, M. Jean-François Major. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Ça vous inquiète pas?
Non. En fait, j'en ai parlé un peu là, pendant ma campagne. Il y a du monde qui me dit « Ah, mais les pourcentages sont bas. » Sauf que si on se souvient dans l'histoire quand même, il y a plusieurs années, là, René Lévesque était quand même à 10%, puis on connaît la suite. Donc, moi, je me dis que rien n'est perdu, puis rien n'est gagné non plus. C'est sûr que je suis là pour vraiment pousser de l'avant le Parti québécois, qui est avec mes valeurs, en fait. Mais non, ça me fait pas peur. Je suis là pour les bonnes raisons.
Parce que la Beauce est quand même particulière. Moi, ça fait longtemps que je vote. Ça fait longtemps que j'analyse puis que je suis la politique en Beauce. Et je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas que le premier ministre de l'Environnement a été un Beauceron. Et c'était Adrien Ouellette. Il était dans l'autre comté, par exemple, dans Beauce-Nord. Mais la Beauce a déjà été péquiste. Est-ce qu'on peut revivre ça, selon vous?
Moi, je crois que oui. Si on regarde aussi dans les sondages, le Parti québécois est quand même le premier, deuxième choix. Ce qui est quand même, pour moi, ce qui est quand même extraordinaire. Puis que, d'après moi, on est capable de tourner ça de bord. C'est facilement jouable.
Ouais, c'est invité un joueur qui est arrivé costaud pendant la pandémie. C'est le Parti conservateur. Vous parlez de premier, deuxième choix. Est-ce que c'est le cas en Beauce-Sud? Est-ce que vous croyez que le Parti québécois se retrouverait dans le choix numéro 2 au lieu du Parti conservateur?
Moi, je crois que oui. Quand on parle de deuxième choix, on parle de deuxième choix en général. Je pense que ceux qui sont plus caquistes, mettons, qui verraient de bord, je pense qu'ils s'en iraient peut-être plus vers le Parti québécois que vers le Parti conservateur.
Ouais, mais vous avez vécu... J'avais quand même vu des souverainistes qui étaient convertis là, et qui étaient vraiment indéflectibles, qui se retrouvent à la CAQ Drainville. On a vu également l'ancienne mairesse de Longueuil qui est maintenant dans Sherbrooke. Vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de voir s'effriter le Parti québécois?
Moi, je pense pas, pour vrai. Si on regarde juste la vague orange avec le NPD, le monde avait besoin d'un changement, ils ont monté ça. Puis c'est quelque chose qui a pas duré pendant des années, on s'entend. Je pense qu'aujourd'hui, le monde a eu besoin de changement. Monsieur Legault est allé avec la CAQ, il a parti son parti. C'est sûr et certain que c'est du monde qui était dans son équipe, qui était autour de lui, qui sont partis avec lui. Oui, c'était des souverainistes, je suis conscient de ça, mais ça reste que c'était du monde de son équipe. Ils l'ont suivi sûrement parce qu'ils ont les mêmes valeurs que lui. À la base.
Ils le sont peut-être encore souverainistes.
Oui, ben c'est ça. Là, c'est qu'on ne sait jamais. Qu'est-ce qui arrivera là, entre les chicanes Québec et Ottawa? Ça pourra peut-être, à un moment donné... parce que moi, j'ai toujours pensé que celui qui a passé le plus près de faire l'indépendance du Québec, c'est Robert Bourassa. Lorsqu'il y avait eu... lorsqu'on avait raté l'accord du Lac-Miche, Robert Bourassa avait dit « Oh, nous sommes une société distincte. » Et s'il avait déclenché un vote, à ce moment-là, je pense
que... Mais effectivement, nous sommes une société distincte. Si on fait juste regarder M. Legault, justement, qui a fait une vingtaine de demandes à M. Trudeau, sur 20 demandes, 20 demandes et plus, là, je me souviens pas le chiffre exact, mais sur toutes les demandes qu'il a faites, M. Trudeau a refusé toutes les demandes. Donc, je pense qu'on est un peuple qui est oublié, puis je pense que c'est d'autant plus l'importance de la souveraineté, c'est nous ramener comme peuple égal aux autres, puis on a des droits, tu sais, puis je pense que ces droits-là sont bafoués justement par le Canada, puis je pense qu'en s'occupant de nos choses par nous-mêmes, tu sais, ça va nous ramener, tu sais, on est un peu fort, le Québec, puis j'espère un jour que ça va arriver.
Moi, je me souviens d'avoir été souverainiste, étant jeune, j'avais milieu de vingtaine, là. On croyait en René Lévesque pour une raison bien simple. Il y avait toute une équipe autour de lui. Les Parizeaux, nommez-les. Et on se disait, ces gens-là vont nous être capables de bien nous gouverner et de bien nous amener vers l'indépendance. Puis quand on va être indépendant, on va avoir des gars tellement solides dans tous les ministères qu'on n'aura plus besoin de penser qu'on peut être mieux traité avec Ottawa. Je vois pas ce genre de gros canon là, qui entoure actuellement Paul Saint-Pierre Plamondon.
Non, c'est sûr qu'on n'a peut-être pas des canons. C'est sûr que le legs de ces personnes-là est encore là, est encore présent. C'est sûr que Paul Saint-Pierre Plamondon aussi, tu sais, il gagne à être connu. Moi, c'est ce qui m'a poussé à aller me présenter pour vrai. Je pense qu'on a un chef qui est très fort. Quelqu'un qui est capable de mener ce bateau-là. C'est sûr que là, en ce moment, il part quand même de bas. Le pourcentage était quand même... sauf que si on regarde dans les derniers temps, il gagne quand même beaucoup de points. Les TVA, les choses comme ça. Les grands réseaux, puis même des panélistes qui s'étonnaient de dire... je pensais pas dire ça un jour, mais Paul Saint-Pierre gagne vraiment en ce moment, tu sais. Je pense pas que c'est des grosses gommes, mais ça reste des grosses gommes quand même. C'est juste que c'est du monde peut-être un peu moins connu parce que le Parti québécois est plus jeune. Mm-hmm.
Qu'est-ce qui, dans le programme du Parti québécois, pour la Beauce, devrait nous sembler le plus attrayant?
Mais il y a deux points, en fait. Il y a le nouveau point qui a parlé là, pour les régions. Ouais. 1,1 milliard avec un ministère, puis chaque région qui ont leur point
d'ancrage,
ouais, pour gérer justement leur municipalité, leur région au complet, selon les besoins de chaque région. Je pense que c'est important. Moi, en tant que conseiller municipal, je l'ai vu, les petites municipalités ont des grands besoins, mais ont pas nécessairement la population de Montréal, donc ils ont pas l'argent de Montréal. Fait que je pense que ce 1,1 milliard-là va pouvoir nous aider en tant que région à évoluer nos petites municipalités, à les rendre plus attrayantes puis pour la municipalité. T'sais, on s'entend, tout le monde paye des taxes ici. T'sais, on veut avoir des bons services autant que partout. Là, mm-hmm.
Et à part ça, moi aussi, moi, étonné avec les régions parce que ça a été le premier à parler des régions. Et on sait ce qui se passe en campagne quand un parti parle de amène un sujet nouveau. Tous les autres disent « Ah, moi aussi, il lève la main, j'ai quelque chose. » Y a-t-il autre chose, vous, particulièrement, on a parlé d'agriculture dernièrement, là, dans les derniers jours. C'est assez rare que j'entendais parler d'agriculture, mais là, on l'a vu de façon très concrète. Est-ce que dans notre région, les agriculteurs regardent ce qu'il y a dans votre parti pour l'agriculture et vous en parlent?
Pour l'instant, non, parce que c'est quand même assez nouveau, vous l'avez dit. C'est sûr que côté agriculture, les agriculteurs pensent plus au fédéral, parce que ça déferle plus du fédéral.
La gestion de l'offre, ça dépend du fédéral.
Ouais, c'est ça. Mmh. Donc, c'est sûr que pour l'instant, j'en ai pas encore eu de nouvelles. C'est sûr que moi, je me promène quand même. Je connais des agriculteurs. J'essaie d'aller voir les agriculteurs. C'est sûr que dans les prochaines semaines aussi, je vais leur poser des questions là-dessus. Essayer de voir. Moi, c'est sûr que je suis là aussi pour défendre la Beauce en tant que telle. Donc, c'est sûr que s'ils me disent des choses qui ne sont pas dans le programme, je vais quand même les défendre. C'est toujours défendable. Là, parce que justement, je pense que Paul Saint-Pierre, il est quand même ouvert d'esprit à dire que chaque région a leurs besoins bien distincts. Donc, s'il y a des choses que lui a parlé dans l'agriculture qui ne fait pas l'affaire des agriculteurs ici de Beauce, c'est sûr que moi, je vais débattre ce point-là.
Au niveau de la santé, comment vous abordez ça de votre côté?
Ben écoutez, moi, je trouve très intéressant le fait de redonner au CLSC leur base première qui est de porte d'entrée. Le fait aussi que M. Plamondon, lui, il parle plus de soins préventifs. La prévention, c'est important. Puis ça peut sauver tellement d'étapes si on commence avec le soin préventif. Il y a aussi les soins à domicile qui sont quand même très importants. Ça va désengorger les hôpitaux. Puis juste le fait qu'il ait dit aussi quelque chose que je trouve vraiment le fun, c'est qu'il a dit « on va rendre le système de santé le meilleur employeur qui existe ». Je pense que si on est capable de ramener ça comme meilleur employeur, je pense que ça va attirer du monde à venir travailler dans le système de santé qui, d'emblée serait peut-être pas allé dans le système de santé parce qu'on entend beaucoup parler des conditions de travail qui sont difficiles, qui sont pas agréables, puis qu'en plus sont peut-être mal interprétées.
Mais pour le rendre plus attractif, notre système de santé, évidemment, chez nous ici en Beauce, on le sait, là, on en a beaucoup de personnes qui ont décidé, qui ont délaissé pendant la pandémie. Comment on s'y prend? C'est-tu les salaires? C'est-tu l'abolition des heures supplémentaires obligatoires? C'est quoi l'angle d'attaque pour le rendre plus attractif?
Et garder le monde.
Le recrutement. Oui, le recrutement n'a pas l'air très, très élevé là, dans les écoles. Pas grand monde qui dit, ouais, mais ça a l'air intéressant d'être infirmière, je vais y aller, moi.
Mais sur ça, je pense que la ligne n'est pas 100% définie de comment ils vont le faire. Je pense qu'ils sont en train de se pencher là-dessus beaucoup. Moi, mon opinion, c'est sûr et certain que, côté salarial, je pense pas que c'est quelque chose qui est vraiment attrayant quand on connaît tout l'enjeu qu'il y a, tout le travail qu'il y a à faire. Je pense que ce qui est plus attrayant, justement, c'est d'essayer d'enlever le travail supplémentaire obligatoire. Moi, j'ai des amis qui sont infirmières, ils ont des enfants, des jeunes enfants. Quand tu es obligé de faire 18 heures, c'est beaucoup de gestion pour une mère monoparentale ou non monoparentale quand même. C'est de la gestion, tu sais, un enfant a besoin de sa mère. Là, on parle de 16 heures, 18 heures ou des travaux supplémentaires.
Mais là, c'est de la gestion. Est-ce qu'on ne devrait pas confier les gestions de chaque hôpital? Parce que c'est là le gros des traitements ou des services en matière de santé qu'on va recevoir. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant que ce soit chaque hôpital a son gestionnaire et on n'a pas besoin de se référer à un CLSC ou un CISCO, pas un CLSC, mais un CIS là, qui est à, je sais pas moi, 25-30 000 de l'endroit où on travaille. Est-ce que ça serait, les municipalités le croyaient aussi que c'était important d'avoir des gestions locales?
Moi, je pense que les CIS, justement, c'est CIU, je pense.
Oui,
ouais, c'est ça. Les CIU, je pense que c'est important quand même. Donner la gestion à un hôpital centralisé, je pense que on a besoin d'avoir une gestion qui est quand même pareille dans tous les hôpitaux. On s'entend que si on donne décentralisé, après ça, ça va être dur de garder le pouls de toute cette histoire-là, tu sais, de savoir qui donne quoi comme soin, comment, les investissements, les ci, les ça, tu sais. Je pense que ça pourrait faire aussi oublier certains hôpitaux qui ont un peu moins d'argent, tandis qu'en gérant ça, tu sais, ils vont envoyer de l'argent un peu partout, tu sais. Ça sera pas, je pense
donc,
que ça va
donc
être
vous, plus... vous dites, le système actuellement, comme il est là, au niveau de la gestion, je parle, là, on peut le garder comme il est, on peut le maintenir.
On peut toujours l'améliorer, mais je pense pas qu'on devrait mettre une gestion centrale.
Niveau fiscal, parce que là, évidemment, j'imagine que les gens que vous rencontrez doivent vous parler du fait que l'inflation est de plus en plus élevée. On a vu chacun, plusieurs parties dire, faites-vous-en pas, on va vous en donner, il va y avoir des abolitions de certains impôts, on va vous donner des chèques. C'est quoi votre position pour ça, face à ça?
Bien, nous, on parle pour... les personnes gagnant 50 000 $ et moins vont avoir 1 200 $ en crédit d'impôt. On a aussi 750 $ pour ceux qui sont entre 50 000 et 80 000. Il y a aussi bonifié, ben, doublé en fait la solidarité. Moi, je crois pas que, personnellement, puis le parti non plus croit pas que de baisser les impôts, ça va nous aider, ça va juste nous enlever des services. Je pense que les impôts servent pour nos services, donc moins d'argent, moins de services. Fait que je pense pas que c'est quelque chose qui est réalisable. On s'entend que le Parti québécois est un parti que, pour moi, est très réaliste dans toutes ses démarches. Donc, je pense que côté réalisme, je pense que c'est la meilleure chose à faire, c'est de garder ça comme c'est là, mais de donner, justement, doubler les crédits d'impôt pour les crédits de solidarité, donner 1 200 crédits d'impôt pour ceux qui ont, justement, moins d'argent.
Les taxes, vous êtes en région... Vous le savez, les Beaucerons qui travaillent à l'extérieur de leur municipalité, et c'est le cas parce qu'on a beaucoup, beaucoup de petites municipalités, on est obligé de se déplacer. Ça prend un véhicule, des fois deux, parce que monsieur part au travail et madame part elle aussi de son côté. Puis la taxe sur l'essence, est-ce que notre région n'est pas une de ceux par capita qui en paye le plus par année?
Je sais pas si c'est celle qui paye le plus. La seule chose, c'est que je le sais que Monsieur Plamondon, lui, il parle beaucoup de transport en commun. C'est sûr qu'ici, ici, c'est différent. On a moins de transport en commun. On a quand même les taxibus. Mais les taxibus, on s'entend qu'à 1 $ par jour pendant
mais c'est trois. Juste pour Saint-Georges, là.
Saint-Évariste, vous n'avez pas de transport en commun.
Le gars de Saint-Évariste qui, comme vous, s'amène à Saint-Georges.
Mais je pense aussi qu'il y a le transport à plusieurs personnes qui est faisable.
Covoiturage.
Le covoiturage, les choses comme ça.
Mais avez-vous déjà fait du covoiturage?
Moi, j'en ai fait, oui.
OK. Puis, pourquoi l'avez-vous arrêté à un moment donné?
Ben moi, j'ai jamais arrêté le covoiturage. Pour vrai, on a fait ça pendant des années. Moi, quand je travaillais sur la construction, j'étais sur la rive sud de Montréal. Puis on était quatre qui restaient dans le même secteur. Nous, on y allait tout le monde ensemble. Je pense que c'est une belle chose.
Ça, les gars de la construction, le covoiturage, faut leur donner. On le voit, par exemple, à Scott Junction, Sainte-Marie, Vallée, on le voit ici, à Saint-Georges aussi. Ils se trouvent un stationnement, puis ils se donnent rendez-vous le matin, puis ils partent tout dans un gros pick-up. Et justement, ça prend des gros pick-up, des gros véhicules pour se transporter à leur travail à Québec. Ça, c'est parfait, le covoiturage. Mais on pourra pas faire ça dans un petit char, là. Il va falloir qu'on nous garde, qu'on nous laisse un peu.
Moi, je l'ai fait dans
véhicules.
Une Civic à quatre.
À quatre?
Oui, okay. Dans une Civic. Je l'ai fait pendant plusieurs années. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à regarder là-dessus. Sauf que, tu sais, j'ai pas de...
Mais la taxe sur l'essence, là, pour certaines régions, est-ce qu'on pourrait pas, ou en tout cas, pendant la période qu'on vit actuellement, est-ce qu'on pourrait pas enlever au moins notre TVQ qu'on charge là-dessus, comme l'Ontario l'a fait?
Bien, c'est sûr que c'est défendable, surtout pour les régions, justement. On en parlait tantôt, les régions, tout est différent, là. C'est sûr que c'est défendable. Je veux pas m'avancer sur la position de M. Plamondon parce que ce point-là, je l'ai pas vu encore passer. Mais oui, c'est défendable. Je suis d'accord, tu sais, qu'on est dans un temps plus dur côté essence, là, surtout que les prix sont quand même assez élevés.
Je veux avoir votre commentaire sur la réaction hier de votre chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui disait « Non, c'est pas nécessaire de mettre en berne les drapeaux ou le drapeau du Québec pour ce qui est de commémorer ou de parler de la mort de la reine. » Qu'est-ce que vous en pensez?
Bien, c'est bien connu que la reine, en fait, c'est fédéral, on s'entend. Nous, en tant que Québec, on n'est pas un pays de la reine, on est une province. Donc, je pense que ça revient au drapeau du Canada est en berne parce que c'est le pays du Canada qui est le premier. C'est ça, c'est le pays
affecté.
C'est le pays de la reine. T'sais, pour l'instant, on n'est pas encore
Canada,
un pays.
Oui, c'est ça. Mais le Québec fait quand même partie du...
Mais le Québec, partout, toutes les places gouvernementales ont le drapeau du Québec et du Canada. Donc, mettre en berne le drapeau du Canada, je pense que c'est plus adéquat.
C'est suffisant. OK. Ben, on va vous souhaiter une bonne fin de campagne. On va se voir la semaine prochaine, nous autres.
Oui, exactement.
Vous allez être présents dans notre débat.
Oui.
Ben, merci beaucoup, M. Major, d'être passé dans le studio.
Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation.
OK. On s'arrête, mon ami.